Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Fréquence Mistral, sur notre émission hebdomadaire 100% foot. Aujourd'hui, comme hier, et probablement demain, Patrick est à mes côtés et nous avons la chance d'avoir auprès de nous un jeune, pourquoi jeune, un véritable stagiaire qui est près de nous, Elias de son prénom. Voilà, donc nous allons partir sur cette émission pour commencer par débriefer cette journée de football de Ligue 1 et en l'occurrence l'OM qui a clôturé cette journée hier soir de fort belle manière et nous allons commencer par cela. Patrick, bonjour.
Bonjour Franck, bonjour à toutes et à tous. Voilà, oui, on va donc commencer à parler du match d'hier soir.
Donc de Marseille-Monaco,
Marseille-Monaco.
Précisons-le.
Alors, on va dire que c'est une journée qui pouvait être intéressante puisque... Bon, même si on regarde moyennement Paris, il est un peu devant. Ils ont été tenus en échec chez eux par Nantes. Voilà. Reims a été battu par Lens. Lille s'est fait tenir en échec à Montpellier. N'a pas pu gagner 2-2. Ils se font remonter à la 90+7. Et donc, du coup, ça nous laissait des perspectives. Lyon a battu Nice, donc Nice était à 3 points derrière.
En effet.
Ça nous laissait la perspective, si on battait Monaco, de les rattraper et de les doubler, puisqu'on avait le même goal average aussi. On avait même plus jeune au goal average. Donc, si on les battait, on passait second. Donc, c'était un match à très gros enjeux. Et à très grosse frayeur pour tout le monde.
D'autant plus que les matchs à domicile n'étant pas notre fort actuellement, et le scénario de ce match, nous pouvons en parler,
oui.
Qui s'est évidemment négocié et la réalisation a été parfaite. C'était surtout le dénouement de la journée. Que nous avons clôturé de fort belle manière.
Et voilà, et donc on a... Alors, on va quand même d'entrée mettre les choses au point, on ne peut pas encore parler de déclic, de trucs comme ça. C'est une victoire à l'arraché, méritée parce qu'on n'a pas...
Oui.
C'est pas volé, il n'y a rien à dire, le pénalty il y est.
On peut être unanime
voilà.
Sur ce propos.
Voilà. Et chacune des deux équipes a mis un but sur une erreur de l'autre, c'est-à-dire t'es... L'OM, c'est une passe ratée de Rongier qui est interceptée, ça fait but.
Quel paradoxe quant au match qu'il a réalisé
oui,
hier au soir.
Oui, qu'il a été excellent, mais bon, il a raté quelques passes. C'est normal, quand tu touches beaucoup, plus de 110 ballons, normal que tu en rates. Hein. Et en plus, on est malheureux, puisque la frappe de Golovin, le russe,
oui.
De Monaco, est déviée par Murillo. Et donc, Rouli, il est battu, même s'il a fait un super match.
On peut le souligner.
Oui, ça a été certainement le meilleur Olympien. Et par contre, l'égalisation de l'OM en début de deuxième mi-temps, c'est un dégagement raté d'un défenseur de Monaco qui trompe son gardien.
Alors, avant d'arriver justement à cette égalisation, quel a été ton sentiment en fin de première période après ce but monégasque et pétard, être mené à la maison, voilà. On commençait malheureusement à s'y habituer. Et... Voilà, quel
Disons
a été votre sentiment
Avec les collègues, enfin les gens autour, dans le virage. On n'était pas d'un optimisme délirant.
Je peux bien imaginer.
Voilà, à revoir un peu les images de... Parce que je rappelle que le match contre Auxerre, on prend un but à la sixième sur une faute colossale de Brassier. Ensuite,
c'est rien de le dire.
Tu attaques, tu te prends deux buts en contre juste avant la mi-temps, tu es 3-0, voilà. Et là, on s'est dit, on est mal barré parce que Monaco joue bien, c'est une belle équipe.
Et l'opposition étant nettement, a priori, meilleure que celle d'Auxerre qui nous a atomisé ce soir-là.
Auxerre, c'est-à-dire, tu prends le premier but, tu les mets en confiance, ils jouent derrière, ils jouent les contres, ils ont des attaquants rapides. Tu te fais piéger, voilà. Là, on commençait à s'inquiéter parce que on a poussé après le but, on a poussé pas mal et on n'est pas arrivé. On a eu des situations, mais pas de très grosses occasions, des ballons dans le paquet, des frappes pas cadrées. Oui. Enfin, on n'était pas extraordinaire.
Non, mais peut-on parler de prise de conscience collective qu'il y a déjà, justement, avec ce stage qui a été diligenté par De Zerbi. En l'occurrence, il a gardé au chaud tous ses joueurs auprès de lui. La commanderie, et ça a permis peut-être de revoir au niveau tactique également, puisque l'implication est présente, ils sont à fond, mais peut-être avec d'autres aptitudes et d'autres ambits tactiques, d'autres réalisations.
Ce qu'on a constaté, c'est que probablement le stage a eu un effet très bénéfique, puisque en début de seconde mi-temps, donc l'OM a essayé de pousser et Monaco a mis le pied sur le ballon. Ils se sont même créés 2-3 situations assez dangereuses. Oui. Et l'équipe n'a pas sombré mentalement. Alors que contre Paris comme contre Auxerre, tu avais sombré mentalement.
Nous le sentions dans les tribunes et c'était palpable.
Voilà, c'était palpable. Là, l'équipe ne s'est pas dégonflée. La défense a tenu, les mecs se sont accrochés, il y a eu, le match était très engagé, il y a eu pas mal de contacts, bonne ambiance, match correct, hein.
Oui.
Pas d'incident, mais enfin quand même, il y a eu, quand on se rappelle un certain carton rouge contre Paris, il y a un monégasque qui met le pied dans la tête de Neil Maupay.
Tout à fait. Je note cette action-là, justement. J'ai eu quelques doutes. Alors, je ne vais pas parler d'arbitrage, ni de monsieur l'arbitre que nous connaissons très bien.
Ouais.
Il est évident qu'avec lui, ça ne se passe jamais super bien. Et ça n'a pas été le cas hier au soir.
Pour avoir revu l'image, parce que j'ai un de mes collègues qui a sur son téléphone le... Je crois qu'il a DAZN, je ne sais pas quoi. Enfin, en tout cas, il a les images. On a regardé pendant la mi-temps l'action.
La faute n'a pas été sanctionnée. Je trouve ça inadmissible.
Il a eu un coup franc, mais il n'y a pas eu de carton parce que Harit, il se fait expulser pour moins que
pour
ça.
Pour moins que ça, tout à fait.
Après, en ayant revu les images, il ne fait pas exprès. Il va au ballon et Mopé a pris un coup. Mais enfin,
J'entends bien. L'erreur est humaine. Mais l'arbitre a usé de manuétude.
Voilà. Et disons que Turpin, bon, pour une fois n'est pas coutume, il a arbitré un match de Ligue des Champions. C'est-à-dire qu'il a laissé énormément jouer. Il y a eu beaucoup de chocs, beaucoup de contacts, beaucoup de duels à l'épaule. Et il a laissé jouer, ce qui a permis d'avoir un match assez engagé.
Ce fut fort agréable.
Voilà, agréable à regarder et engagé. Mais c'est vrai que, contrairement à certains arbitres de Ligue 1 qui sortent les cartons à tour de bras et qui sifflent un moindre coup d'épaule, il a vachement laissé jouer.
J'ai eu peur de cette attitude, justement.
Voilà. Voilà. Et donc, et dans l'ensemble, il n'a pas influé sur le résultat, puisqu'il n'y a pas eu de... À part cette action où il y avait au moins un jaune, à mon avis, c'était... Le rouge aurait peut-être été un peu sévère.
Oui, sur Mopé.
Faute sur Mopé, il y avait au moins un jaune, mais il a laissé, il n'a pas mis de carton tout le match. Et ça nous a permis, contrairement au match contre Paris, où dès que tu mettais un tacle, tu prenais un carton, ça nous a permis de rentrer. Le match a été très engagé, était un match de bonne qualité.
C'est car nous avons guère vu l'arbitre, c'est pour cela que le match le fut.
Voilà, le match a été pas mal. Et donc, on a ce qui est par contre important et je dirais même fondamental, tout en disant qu'on ne peut pas parler de déclic, il faudra voir.
Oui.
Hein. Voilà, pendant les semaines à venir, on reçoit Lille dans 15 jours, on verra contre Lille, qui est aussi une très grosse équipe.
Nous sommes par Saint-Étienne la semaine prochaine, et Lille, justement, ça commence à être... on n'est pas dans le money time, parce qu'il reste énormément de journées, mais ça commence à se dessiner sur un profil de
disons
classement.
Ils sont à 3 points, ils sont à 3 points, ils étaient à 1, mais comme ils ont fait match nul à Montpellier, ils sont à 3. Tu les bats, tu les mets à 6. Si tu vas faire un résultat à Saint-Étienne, ce qui n'est pas encore joué, quoi. Et donc, ce qui était très positif, à mon avis, et qui a été relevé par beaucoup de gens, je parle des réseaux sociaux, des journalistes, je parle de l'équipe ce matin dans l'équipe, où je parle des collègues dans le virage, c'est qu'on n'a pas été paralysé en début de mi-temps, on a eu du mal parce qu'ils ont mis la pression, à mon avis ils ont voulu tuer le match en marquant le second,
Absolument.
On a bien résisté, on est arrivé à reprendre le ballon, à attaquer. On marque sur une erreur défensive, mais comme
oui,
nous, c'est
aussi... comme tout, voilà. Presque tout le temps.
Oui, presque très souvent, oui. Et si tu marques, beaucoup souvent, c'est des erreurs. Et on égalise là-dessus, et après, tu as senti une... Même le stade, ça se sentait, le public était en feu, et l'équipe était au combat. Et jusqu'à la fin, puisque le pénalty, je rappelle, bon, pour ceux qui n'ont pas vu le match ou qui ne s'en rappellent pas, que c'est à la 88e un péno, c'est Murillo, l'arrière-droit, oui, qui est monté, qui est quasiment sur la ligne de but, qui centre, et c'est Monégasque qui détourne le ballon
du bras.
Voilà,
il a fallu quand même une observation, une demande de VAR, d'observer l'image, voilà. Mais alors, ça tout de même un peu...
Alors à mon avis, Turpin, il s'est protégé,
oui,
pour
tout,
éviter
comme toujours,
l'attroupement. Mm-hmm. Il a dit, mais il y a faute, il a sifflé, et il a dit, à la limite de la surface. Il a dit, j'attends le VAR.
Non, c'est une excellente initiative de,
voilà,
sa part, ça évite
des
discussions inutiles.
Voilà. Et du coup, après, le VAR a dit, oui, c'est dans la surface. Effectivement, vu les images, c'était bien dans la surface. Mmh. Et il a sifflé le pénalty. Mais moi, j'ai donc mon pote, là, Tony, qui avait son téléphone. On regardait, on disait, oui, il est dans la surface. Mmh. Voilà, on n'avait pas la télé, mais on l'avait sur le téléphone. Voilà. Et donc, ce pénalty à la 89 te permet de gagner un peu à l'arrache. L'entraîneur de Monaco a dit, Uther, l'Autrichien, disait on méritait le nul. Honnêtement, ça n'aurait pas été un scandale. Hein.
Mais la victoire en elle-même n'est pas un scandale, elle est plus que méritée.
Voilà, elle est méritée, tu t'es engagé. Et je pense que Monaco a peut-être fait l'erreur de vouloir tenir le résultat, puisqu'ils ont fait des remplacements, ils ont fait rentrer des joueurs un peu plus défensifs.
C'est vrai qu'il y avait une gestion de groupe également après le match de Coupe d'Europe mercredi passé.
Moi, ce que j'ai constaté, c'est qu'ils font sortir Golovin, le russe qui a marqué le but de Monaco, qui est ailier gauche. Ils le font sortir et ils font rentrer Kassim Ouattara, qui est international espoir français, et qui est un arrière latéral, qui est un piston.
C'était pour bien comprendre un petit peu, peut-être, préserver le score, c'est ce que j'avais cru comprendre également dans cette approche, mais il est vrai que c'est... quelque part, je me dis également que l'on aurait pu profiter bien en amont de ce match et de concrétiser quelques actions que nous n'avons pas su justement. Alors, je voudrais qu'on parle de positionnement également. On parlait de nos latéraux, de Murillo également. Et puis, du côté axial qu'emprunte Greenwood, où je trouve beaucoup plus à l'aise que quand il est sur un côté. Alors, bon, on n'a pas véritablement de numéro 10 sur les matchs que nous suivons, mais bon, je pense qu'on s'oriente peut-être sur le positionnement de Greenwood. Qu'en penses-tu, Patrick ?
Alors, disons qu'il y a plusieurs explications. Carboni étant blessé, out, et Harit étant actuellement blessé, mais de toute façon, à mon avis, il s'en va au mercato. Enfin,
ça va être compliqué.
C'est probable. Il recentre Greenwood parce que Greenwood a l'inconvénient de ne pas défendre. C'est un ailier qui ne défend pas.
C'est juste. Voilà. Dans l'axe, son positionnement serait plus à même d'être...
Voilà. Et donc, il met Henrique, qui peut jouer aussi bien à droite qu'à gauche, le Brésilien, Luis Henrique, il le met ailier droit. Et Luis Henrique, il bosse. C'est sûr que dans les 1 contre 1, les dribbles, ce n'est pas Greenwood. Par contre, il travaille énormément. Et il a mis Rabiot côté gauche, qui lui aussi travaille beaucoup. Il a fait un match correct, il travaille, il aide énormément à la stabilité. Parce que le changement tactique, c'est toujours, tu joues toujours avec une défense à 3.
Oui.
Donc, Murillo arrière droit, Balerdi-Axia, les Condogbia qui met à gauche parce que malheureusement Cornelius étant blessé.
Oui, toujours out, pas... mais avec quelques progrès dans les relances, c'est pas gentil de dire cela de ma part, mais je trouve Condogbia beaucoup mieux sur ces derniers matchs.
C'est-à-dire, je pense que c'est un peu plus équilibré.
Oui.
Et n'oublions pas que c'est un milieu défensif qui dépanne en arrière central et que donc il avait besoin aussi de retrouver des repères. Parce que à 3, c'est pas le même.
C'est pas le même travail.
Voilà. Là où c'est un peu plus problématique, c'est que ton arrière-gauche joue milieu. Tu as une ligne de 4, donc avec Luis Enrique qui est le côté droit, le piston, Rongier, Højbjerg et l'arrière-gauche.
Oui.
Et ça a été un peu mieux.
Beaucoup plus offensif. Il a voulu se.
Voilà.
À l'image de Merlin,
voilà,
qui est rentré un peu plus tard.
À l'image de Merlin. Disons que. Ulysse Garcia a l'avantage d'être meilleur défenseur. Par contre, c'est moins bon contre-attaquant. On voit bien qu'il n'a pas la même qualité technique de centre intérieur du pied qui sont des ballons. Qui
ça
sont,
manque de justesse voilà, dans ses centres.
Que Merlin est un très bon centreur, même si c'est lui, Garcia, qui fait le centre sur le but égalisateur. Hein. C'est
tout
lui
à fait.
Qui fait le centre. Mais bon, il est moins performant. Par contre, défensivement, il est plus costaud. C'est pour ça, je pense, qu'il avait fait jouer
petite parenthèse pour revenir justement au but d'égalisation, avec une excellente déviation de Mopé sur Luis Enrique, qui a été la conclusion, ce qui envoie un petit peu les notes qu'il a un peu insensé dans l'équipe, alors que son match relativement moyen, en tout cas, il a marqué.
Mais le truc, c'est que oui, ils lui ont mis une très bonne note, alors qu'il... mais c'est vrai qu'il a été utile à l'équipe, parce qu'il y a la ligne de 4, donc Enrique, Rongier, Højbjerg et Ulysse Garcia ou Merlin, à gauche. Récupère beaucoup, fait un gros travail défensif. Et Rabiot, qui joue en pointe, qui joue derrière à l'avant-centre, il a aussi un très gros travail défensif qui compense un peu...
énorme abattage.
Voilà, le travail un peu léger de Greenwood. Mais on sait qu'un mec qui joue axial, un 10 et tout, il défend moins, alors que Nélier, tu as besoin de lui.
Toute l'implication de Luis Enrique à droite également, qui apporte énormément de travail.
Et c'est probablement pour ça qu'il fait... moins joué l'anglais Jonathan Rowe, qui est plus un ailier dribbleur très percutant, parce qu'il travaille au moins, il a moins le...
il a moins d'abattage défensif.
Voilà, Luis Enrique, l'année dernière, Jean-Louis Gasset l'utilisait en arrière latéral, à droite comme à gauche d'ailleurs, parce qu'il a les deux pieds. Et donc, c'est un garçon qui contribue à l'équilibre.
Très complémentaire.
Et là, quand même, tu recevais un gros morceau, parce que Monaco, c'est fort. Hein. C'est une belle équipe. Il y a vraiment plein de très bons joueurs de ballon. Et donc, tu avais besoin d'une équipe très équilibrée. Ce qui a valu un peu des sifflets et des critiques sur, par exemple, Ulysse Garcia, où des fois, il était bloqué, il revenait vers l'arrière et il repassait par la défense centrale.
Oui.
Alors les gars, vas-y, fonce devant.
Oui, mais la maîtrise du ballon,
tu perds le ballon, n'oublions pas que le but qu'on encaisse, c'est une Rongier qui essaie de faire un décalage et qui la passe interceptée, quoi. Donc il faut faire attention, et je pense que les consignes sont quand même... dans ce premier rideau de 4, il faut faire attention. Oui. Tu perds un ballon, tu t'exposes. D'ailleurs, en tout début de match... mais Rouli a fait une super parade. On s'est fait prendre un ballon à la 4-5e aussi. Pareil, on s'est retrouvé avec un mec seul face à Rouli. Heureusement, le gardien argentin a fait un bel arrêt. Mais tu peux t'en prendre un. Alors à la 5e, là, c'est mauvais signe.
Justement, on a évité cela, justement, cette avalanche du début. C'est bien souvent comme cela que nous dégringolons. Et ça n'a pas été le cas.
Et
bien heureusement.
Et c'est vrai que le problème, c'est que quand tu veux construire. C'est pour ça que Monaco est un adversaire compliqué, c'est que c'est une équipe très forte techniquement.
Très très forte.
Moi j'ai beaucoup été impressionné par le match de Zakaria au milieu de terrain, qui a été le Suisse.
Excellent joueur.
Les deux jeunes, Akliouche à droite et Benseguir à gauche, sont très forts. Golovin, n'en parlons pas.
Une maîtrise technique au milieu. C'est...
très belle équipe technique. Et tu perds un ballon, tu leur donnes une balle de contre. On l'a vu en seconde mi-temps avec le japonais Minamino, là,
Minamino
qui était rentré.
Justement, qui a...
Et qui, sur un contre, a failli... Bon, après, il était hors-jeu. Mais enfin, il s'est présenté seul devant Rouli, qui a fait l'arrêt. Mais bon, il était hors-jeu. Mais je veux dire, tu perds un ballon sur un ballon contré. Quoi.
Oui, notre alignement était voilà. bien positionné.
Mais on a fait, nous aussi, un gros pressing. On a récupéré beaucoup de ballons. Mais quand tu es dans des situations comme ça, surtout que l'arbitre a beaucoup laissé jouer, même si je pense que c'est une bonne chose, les charges, les percussions et tout.
Oui, c'est plutôt agréable, d'autant plus quand c'est des deux côtés.
Voilà, c'est des deux côtés, il ne siffle pas d'un côté et pas de l'autre. Ça donnait un match dangereux. Tu perds des ballons, tu te prends des contres, c'est dangereux. Et donc, on a fait un bon match là-dessus, on ne s'est pas dégonflé, on y est allé, ça a été un beau combat. Et bon, disons qu'une fois n'est pas coutume au Vélodrome, la rencontre a basculé sur... Parce que franchement, bon, le Murillo, il fait un centre, il n'est pas dit que Marseille aurait pu reprendre dans la surface, c'est pas sûr. Et le mec, il saute avec les deux bras en l'air, il le touche du bras. Donc, je veux dire, péno...
Le jeu appelle faute.
Voilà, le jeu appelle faute.
Pour une fois que nous en bénéficions.
Parce que, disons que Monaco, ils ont une défenseur centrale qui s'appelle Singo, qui a fait un match très, 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 très bon match. Et par contre... Il y a l'autre, son partenaire du centre, qui a fait une erreur qui nous a permis d'égaliser.
Qui a manqué de justesse, heureusement
voilà.
pour nous.
Voilà, et l'arrière-gauche qui a fait cette main un peu stupide.
Un geste malheureux, tout
voilà,
simplement.
Voilà. Et à la 88e, tu te prends un péno, bonne maison. Mais on a rien volé, on a mérité la victoire, le péno il y est, le match il a été engagé mais correct. Et s'il y a même eu une décision qu'on peut trouver... C'est le fameux pied dans la figure de Nil Mopé.
Oui,
l'arbitre aurait pu sortir un carton, même...
Ne cherchons pas à sanctionner les adversaires, simplement restons dans la justesse de propos et qu'il n'y ait pas, justement, d'entourloupe de jeu.
Ça a fait beaucoup glander au stade parce que tout le monde a parlé du rouge qu'a pris Harit contre Paris.
Oui, les comparaisons sont toujours présentes.
Pour largement moins que ça. Mais bref, on a fait un bon match et je pense qu'avoir la joie et les embrassades à la fin du match des joueurs olympiens, on peut espérer que ça débloque au Vélodrome, que la peur elle soit partie. Là, il faut voir dans 15 jours contre Lille, qui est aussi un très gros morceau. Mais on peut espérer ça parce que si tu te débloques à la maison, comme tu as des bons résultats à l'extérieur, ça peut permettre de... Alors, on ne va pas délirer sur revenir sur Paris, c'est quand même loin.
Non, il faut rester dans une optique juste et raisonnable, tout simplement réelle. Là, nous sommes donc à la 15e journée. Il reste pas mal de journées. Et continuons notre parcours extérieur, donc avec Saint-Étienne dans pas longtemps.
Dimanche soir,
tout simplement. Et qui succédera à ce match, le fameux match contre Lille, qui est un match à 6 points, on peut l'intituler ainsi, et restons dans cette justesse. Maintenant, à la maison, on gagne des matchs, on reprend des points, continuons sur cette lancée-là, et ça nous permettra justement de pérenniser notre parcours.
Oui, parce que tu peux pas tabler sur faire 6 victoires sur 7 matchs à l'extérieur, c'est trop
de jouer en contre,
c'est trop risqué, voilà, c'est
de jouer
risqué.
Contre des équipes qui ne se referment pas sur eux-mêmes, donc non.
Mais c'est vrai que le problème qu'on a, c'est qu'on a une équipe qui veut avoir le ballon, mais on est meilleur en contre. C'est-à-dire des Greenwood, des Rowe, des Luis Enrique, c'est rapide. Et on a un peu une équipe qui est faite pour jouer en contre-attaque, mais à la maison, les mecs en contre-attaque...
D'où nos résultats à l'extérieur.
Voilà, d'où nos résultats, parce que tu as quand même les équipes, le match de Lens la semaine dernière, les Lensois, ils ont joué, ils ont essayé de marquer, ils ont attaqué. Et donc, toi, ça te permet d'avoir des possibilités de les prendre en contre. Alors que... À la maison, les mecs, ils viennent derrière, ils tirent le rideau, ils mettent le car, l'autobus devant le but, et puis ils attendent. Quoi. Voilà. Et voilà. Mais heureusement, moi, je pense, hein, on en parlait un peu hier soir après le match et tout, la tactique qu'il a mis en place avec le trio Rongier, Højbjerg, Rabiot, même si Rabiot joue un peu plus haut, c'est pour sécuriser.
Il y a un équilibre qui a été trouvé avec l'apport Rongier, qui est justement, c'était le facteur qui manquait peut-être à ce milieu de terrain.
Oui, parce que c'est vrai que Rongier, même si il a perdu des ballons, même si le but de Monaco vient d'une balle qu'il a perdue, après, quand tu joues, tu ratisses, que tu touches 110 ballons dans le match, tu fais forcément des erreurs de relance. Le mec qui fait du 98% de passes réussies, c'est qu'il fait des passes en arrière.
Il suffit d'une.
Voilà.
On ne le jugera pas là-dessus.
Voilà. Oui, parce qu'il a fait globalement un très bon match.
Un très bon match.
Voilà. Mais disons que ce truc-là sécurise derrière. Et donc, avec l'apport de tes deux hommes de couloir,
oui.
Donc en l'occurrence, Cendrické et Garcia ou Merlin. En fait, il y a une ligne de 5 devant ta défense.
Avec un Henrique qui aurait plus tendance à porter défensivement que son homologue à gauche.
Voilà, oui. Et donc, tu as quand même une équipe qui travaille bien, ce qui te permet à l'extérieur d'avoir des bases. Quoi. Et voilà.
Trouvant la justesse, justement, au milieu de terrain, dans la passe, et justement, au niveau offensif, pouvoir animer ce qui suit.
Mais c'est en ça d'ailleurs qu'on peut constater que c'est Mopé au poste de l'avant-centre qui s'impose, qui a pris la place de titulaire.
On peut le penser fortement après ces derniers matchs.
Effectivement, parce qu'on l'a vu à Lens où il fait deux passes décisives. Il a la capacité à garder le ballon.
Oui.
Et hier, on l'a encore vu, même si c'est... Bon, de toute façon, pour qu'il revienne Eli Wahi, il faudra du temps. Mais notons quand même que quand il est rentré à la 70 et quelques, le public l'a encouragé.
Oui, nous l'avons justement souligné tout à l'heure, en aparté.
Oui.
Pardon, il est vrai que oui, ça n'a pas empêché justement de se montrer convaincant. C'est ce que nous attendions, mais ce n'est pas le cas.
Voilà.
Mopé est le numéro 1 des numéros 9 pour l'instant pour moi.
Parce que, bon, en plus qu'il est combatif et guerrier, c'est pas un grand buteur, hein. Mais il sait garder le ballon, il sait attendre, il sait démarquer ses équipiers. Et hier encore, il fait une passe décisive, alors sur une erreur monégasque, mais enfin, il est là. Et il a le bon geste de mettre une remise de la tête sur Luis Enrique pour l'égalisation. Et Wahi, quand il est rentré, tu as vu son problème, il est ultra rapide, beaucoup plus rapide que Mopé. Mais le problème, c'est qu'il est léger dans les duels. C'est-à-dire qu'il s'est fait pris un coup d'épaule tout le match par la charnière au Monégasque. Et 9 fois sur 10, il était par terre, quoi. Alors que Mopé, il est beaucoup plus guerrier, beaucoup plus... Voilà. Et puis, il est vicelard.
C'est le profil. On va parler d'expérience, mais c'est surtout son vécu et ce qu'il prouve à chaque match. Il sait jouer dos au but, il sait trouver les décalages, il sait s'orienter avec ses partenaires et justement conserver un ballon. Et ce que malheureusement, Wahi, il faudrait que on joue son défenseur en face, qu'on lui envoie des ballons en vitesse et qu'il puisse dribbler une fois et marquer.
Parce qu'on rappelle à nos auditeurs que Mopi a joué 8 ans en première ligue. Il a joué dans des clubs de deuxième moitié de tableau. Il n'a jamais joué à Liverpool ou à Manchester City. Hein. Mais enfin, entre Bournemouth, Brighton, il a joué à Brighton, il a joué à Brentford, il a joué à Everton. C'est un mec qui a
l'école anglaise de l'attaquant anglais combattant.
Voilà.
Et,
les charges à l'épaule, les tacles musclés et les coups d'épaule. Et il sait ce que c'est et il résiste et il sait servir de pivot et remettre les ballons. Wahi est beaucoup trop fragile là-dessus. Mmh. Et moi, on l'a remarqué parce que face à la charnière de Monaco, Singo et Salisu qui sont des joueurs costauds, c'est des rugueux.
Oui.
Wai, il a perdu tous les duels, quoi. Il s'est fait défoncer. Les seules fois où il a pu faire un truc, c'est quand on l'a lancé en profondeur, voilà, où il est passé en vitesse. Alors, tu sens que la confiance, elle n'y est pas, parce qu'il a eu un moment, c'est, je crois que c'est Højbjerg qui lui a fait une passe en profondeur, mais une passe de 40-50 mètres. Hein. Ouais. Il est parti, il a pris de vitesse, mais il s'est fait reprendre parce qu'il a voulu faire un dribble dans la surface, il s'est fait contrer. Tu sens qu'il n'est pas en confiance.
Justement, il ne sait pas jouer autrement que dans la profondeur qu'on n'arrive pas à trouver avec lui. Alors après, il ne faut pas faire le geste de trop. Mmh. Et il faut finalement, mais non, il n'arrive pas à jouer dos au but et jouer avec ses partenaires. Mmh. Et c'est vraiment dommageable. Oui. Et j'espère de tout cœur qu'on va trouver une solution pour articuler tout cela parce que le mercato approche. On ne pourra pas, évidemment, c'est un investissement, parlons, c'est du show business, le football, et on ne peut pas se passer de ces services comme cela, et il va falloir optimiser son rôle.
Tu l'as acheté, donc l'idéal serait de le prêter dans un club, moi je verrais bien l'Allemagne qui est un pays rêvé pour les attaquants de pointe, rapide, voire Colomuani, Ekitike, etc., parce qu'il faut lui redonner confiance, parce que là, il est... Et en plus, comme tu joues très souvent, en tout cas au Vélodrome, face à des défenses basses, Mopé en première mi-temps, il a eu une bonne action, je crois que c'est Greenwood qui lui fait une passe, contrôle, il pivote, il s'avance, il frappe à angle fermé, bon,
Mais oui, je revois cette action.
Il a des réactions d'avant-centre de surface. Wai, c'est pas le genre.
Non, lui, il a besoin de profondeur pour s'exprimer, et là, c'est trop compliqué.
Il lui faut l'espace, et au Vélodrome, tu n'en as pas. Et donc, il faudra voir, parce que là, je regardais ce matin les réseaux sociaux, Raspadori,
On y va bon train dans les allégations de joueurs à venir.
Raspadori, c'est 25 millions minimum.
On fait notre marché. Voilà. C'est le marché de Noël.
Et il joue à Naples où c'est Lukaku le titulaire. Il a du mal à. Il est remplaçant. Hein, faut dire, avec l'attaque qu'ils ont, Lukaku et Kvaratskhelia, bon, le mec, il est sur le banc, quoi.
Forcément.
Mais, voilà. Mais enfin, on parle de 25 millions.
De l'en bénéficier au mercato, je ne suis pas forcément sûr.
Ça me paraît un peu utopique. Et donc on n'est pas notre priorité, je pense qu'on est tous d'accord, hein, c'est un défenseur central pour être à côté de Balerdi, parce que Kondogbia dépanne et merci et il fait des bons matchs, il fait ses matchs, mais c'est pas son poste.
Alors quid de nos latéraux à ce moment-là, puisque ça pêchait au niveau des côtés, quoi.
Oui. Alors quand on parle business, le problème, c'est que Murillo, tu l'as acheté 2,5 millions d'euros à Anderlecht en Belgique. Et Ulysse Garcia, tu l'as acheté 4 millions au Young Boys de Berne en Suisse.
Oui, l'investissement à lui-même n'est pas justement un problème.
C'est d'excellents remplaçants, ils font leur match, très bonne mentalité, très bon état d'esprit, ils se battent, voilà, il n'y a pas de problème.
Maintenant, c'est avoir des ambitions sportives un peu plus étoffées.
Si tu veux du niveau dessus, il faut mettre des sommes beaucoup plus conséquentes. Bon, par contre, eux, c'est pas grave. Par contre, Brassier, tu as une option d'achat à 12 millions à Brest, puisqu'il est acheté avec option d'achat. Wai, l'as payé 25. Tu peux pas te permettre le pan en remplaçant si tu dégages, si tu es.
Il est vrai que Brassier, ça reste justement problématique. Est-ce que ça a été une erreur de casting au préalable? C'est un trompé de profil. En tout cas, sa saison qu'il a effectuée la saison passée à Brest, il n'arrive pas à la reproduire chez nous. Hein.
Ah non, non.
Il en est bien loin.
C'est sûr.
C'est parce que l'on recherche balle au pied, un excellent défenseur rugueux, mais sa relance n'est pas ce que nous souhaitons dans l'axe.
Voilà. Et après, je ne pense pas qu'on puisse parler d'erreur de casting, parce qu'on le voyait à Brest, il faisait d'excellents matchs. Et c'est un garçon quand même qui a 24 ans. C'est pas un jeune qui a 19 que tu dis qui a pris un pari sur un prospect, le mec il a pas prouvé, des trucs comme ça quoi.
Donc la construction d'une défense ne passe pas par un joueur, c'est un ensemble qui doit être cohérent.
Et lui, il a 24 ans, donc il a de l'expérience, il avait joué à Rennes avant, il a été formé à Rennes, il a joué à Brest, il a
très belle école.
Voilà, des très bons matchs. Donc ça paraissait cohérent. En plus, option d'achat 11 ou 12 millions, Par contre, ce que tu pouvais pas prévoir, c'est que mentalement, il allait s'effondrer.
Et voilà. Justement.
Il a commis quelques erreurs, et tu l'as vu contre Auxerre, où il a un ballon, je dirais pas comme d'habitude, ça fait rire Thierry, je dis ma grand-mère, elle le prend le ballon, ma grand-mère.
Bien sûr. Ça, c'est la phrase que l'on envoie à toutes les sauces.
Mais il rate le ballon et il tombe en arrière et il laisse l'attaquant Auxerrois seul face au gardien. Et ça fait but. Quoi.
Patrick, peut-on parler du fait que, et nous le savons pertinemment, il y a ceux qui sont faits pour l'OM et d'autres non. Il y a d'excellents joueurs, des joueurs de qualité qui réussiront un peu de partout, mais pas ici. Il y a quelque chose en plus qu'ils doivent posséder. Donc, tu parles de mental, et je pense que c'est fondamental, le mental.
Ah oui, parce que lui, il a raté un match ou deux, ça arrive. Et après, sans aller jusqu'à comparer, Aubameyang, il a 35 ans, c'est un joueur d'expérience. Mais en début de saison, l'année dernière, quand il est arrivé, il a eu les 2-3 premiers mois difficiles, où il ne marquait pas, où ça ne se passait pas bien. S'est fait un peu chahuter. Quand il a été remplacé en cours de match, il s'est pris des sifflets.
Mais comme il a rebondi,
Le mec,
extra.
Arsenal.
On voit le bonhomme.
Barcelone, Borussia Dortmund. Hein, voilà, le mec, il est revenu, il t'a planté des buts, il a fini, c'était l'idole.
Et nous le regrettons encore.
Et on le regrette encore, parce qu'effectivement, c'est un vrai avant-centre. Mais voilà, le mec, il avait les reins solides. Là, Brassi, on pouvait penser que c'est un défenseur central, ça irait. Et là, maintenant, Cornelius étant blessé, tu te retrouves à faire jouer meilleur récupérateur en défense centrale.
C'est ça,
ce qui veut dire que un de tes meilleurs récupérateurs se blesse, tu n'as pas de remplaçant d'expérience. C'est le remplaçant, normalement.
Cornelius devrait revenir assez rapidement, je crois.
Mais après, le temps qui s'appelle.
Le temps de se remettre.
Voilà, la fin de la saison, avant
la trêve hivernale,
le 16 décembre. Donc, je veux dire, ça fait court. Et donc, tu es obligé de faire jouer ton milieu défensif, défenseur central. Suivant qui tu as en face, ça peut être un problème. Bon, des problèmes de. On l'avait déjà évoqué ces dernières semaines, en disant qu'un défenseur, un milieu défensif, il a des réflexes de monter sur l'attaquant pour contrer, alors qu'un défenseur axial, il reste.
J'en reviens aux priorités du mercato, donc on en revient. Un axial.
Un axial.
C'est ce que nous souhaiterions.
Un axial. La condition, c'est qu'il va falloir que tu puisses, d'une manière ou d'une autre, te débarrasser de Brassier.
Voilà, Brassier. Voilà,
parce
justement.
Que sinon, c'est rude. Voilà. En plus, c'est un joueur qui est venu pour être titulaire. Il est à Lens, il n'était même pas dans le groupe. Et là, il est sur le banc, il ne rentre pas.
Ça va être dur pour le mental là, de se remettre de cet épisode.
Tu risques de le perdre, voilà. Et donc, c'est la priorité, un axial. Un latéral, si tu peux, c'est une bonne chose, à condition que c'est quelqu'un qui t'amène. Il ne s'agit pas de prendre un remplaçant de plus, parce que tu as Lirola aussi qui fait ses matchs, qui est correct, surtout bon en contre-attaque.
Voilà, moins défensivement.
Défensivement, c'est un peu plus léger, mais Murillo, c'est un bon défenseur. Donc, tu as ce problème, un latéral, oui, un axial, c'est la priorité. Et puis, à mon avis, il faudrait un 10, enfin, un créateur, parce que Rabiot, c'est un super joueur qui équilibre, mais c'est pas non plus.
Les compétences de nos milieux, ont la possibilité justement de créer le jeu, mais le véritable 10 dont tu parles, nous ne l'avons pas.
Voilà.
Et Carboni, on en revient ce jour-là, malheureusement.
Il s'est fait les croisés. Donc il est out. Et Harit.
Harit, malheureusement, va nous faire défaut pas encore pendant un petit moment.
Oui, un petit moment.
Ça déchire.
Et bon, on sait que c'est un bon joueur, mais qui a tendance à trop porter le ballon. Or, sur une des défenses assez regroupées, il faut jouer très vite.
Très très vite.
C'est-à-dire, hein. Tu as le ballon, il faut immédiatement que la passe elle parte, il faut que tu aies déjà vu le... Parce que tu as des joueurs capables d'appeler, que ce soit Rowe ou Henrique, que ce soit Greenwood, que ce soit Mopé qui fait des appels. Et il faut que quand le ballon il arrive, il soit déjà dans la tête, il soit déjà parti.
C'est ça. Avant que le joueur soit parti, justement, ça s'imbrique rapidement sur une touche de balle dans l'idéal.
Voilà, parce que c'est vrai qu'Harit, il a ce défaut qu'il a toujours eu. Hein.
C'est un joueur de ballon.
C'est un beau joueur de ballon.
Il taquine trop.
Mais voilà, il touche trop le ballon, il fait trop de... Et souvent, il perce... Et il peut se faire contrer, tu te dis pourquoi tu n'as pas ouvert de suite. Oui. Et il est, alors qu'il a la technique, hein, c'est un beau joueur de ballon.
Il a une capacité extraordinaire.
Mais voilà,
seulement, il faut finaliser dans le très haut niveau, il ne faut pas justement.
Alors lui, il est annoncé sur le départ. Ouais. S'il partait, il faudrait donc un joueur à la création, parce que tu es un peu la situation de l'équipe de France. Hein. Griezmann étant parti, tu n'as plus le créateur, mais qui te fait la passe. Quoi. Et on le voit, on en parlait encore hier soir, en parlant du Real Madrid, puisque évidemment, on a parlé du sujet Mbappé comme tout le monde. Oui. Le Real Madrid, leur problème, ce n'est pas Mbappé, son intégration. Leur problème, c'est le départ de Toni Kroos qui est pas remplacé.
Oui.
Et c'est lui qui structurait, qui organisait, qui avait une qualité de passe monumentale. Et ils ne l'ont pas. Et c'est ni Valverde, ni Tchouaméni, ni Camavinga qui va faire les passes.
Une seule lettre vous manque, tout est dépeuplé.
Oui,
d'autant plus Kroos, justement, ce qu'il a porté au Real de Madrid.
Ah,
et
oui.
Justement, c'est lui qui imbrique tout, qui prépare tout et qui gère tout, quelque part.
On le voit avec Manchester City qui actuellement est en crise, enfin, a des problèmes.
Oui. Relativiser.
Comme par hasard, c'est depuis la blessure au ligament croisé de Rodri, qui était l'homme de base qui structurait, qui relançait, qui organisait, qui couvrait. Et l'absence de Rodri, elle fait. Bon, il y a aussi la blessure de De Bruyne. Hein.
Il y a un ensemble qui fait,
oui,
mais.
C'est un ensemble.
Mais Rodri et De Bruyne font justement. Pour parler justement de clubs autres que. Notre équipe.
Oui, on parle de gens de niveau supérieur.
Oui, ben, on y aspire. Hein.
Voilà, mais nous, c'est vrai qu'il nous manque. C'est pour ça que dans les trucs de recrutement, ce qui se dit, les milieux de terrain, ça va, tu as du monde,
de
qualité. La priorité, c'est un axial, parce qu'on l'a vu l'année passée, si Balerdi a flambé, c'est aussi parce qu'il y avait Mbemba à côté.
Exactement.
Et que voilà, l'autre le sécurisait.
D'ailleurs, il est toujours sous contrat chez nous.
Oui, il n'a pas voulu prolonger, ça se passe très mal. Et de toute façon, il ne prolongera pas.
Un épisode, justement, qui prendra fin probablement.
J'espère en janvier où il partira, il sera transféré.
Et c'est un grand dommage.
Oui, parce que c'est un défenseur costaud, hein. C'est pas un grand relanceur, mais défensivement, ça déménage.
Quel joueur.
Voilà. Et donc, Balerdi a besoin d'un équipier de qualité. Un arrière latéral, oui. Si possible, bon défenseur, parce que les nôtres ne sont pas des défenseurs extraordinaires.
On est dans la recherche de la polyvalence, presque.
Oui, voilà. Mais
qui
bon.
Qui puisse jouer des deux côtés, tant qu'à faire.
Voilà, mais disons que. Murillo est pas trop mauvais défensivement, mais enfin, c'est pas non plus la sécurité sociale. Donc un arrière latéral, c'est pas l'absolue priorité, mais ça serait bien. Un axial, à mon avis, c'est la priorité. Et puis un créateur devant qui puisse jouer derrière l'attaquant, qui puisse être un gars qui sait faire la passe. On l'a vu le but de Monaco quand Rongier se fait intercepter, je crois que c'est Akliouche qui a le ballon, qui fixe et qui décale Zakaria, qui décale Golovin. Cette qualité-là,
Le mec, une touche de balle, un déplacement qui suffisent justement à provoquer et à réaliser.
Un contrôle parfait, une passe de 30 mètres qui arrive dans les pieds au bon moment, et ça te fait toute la différence. Et quand tu as des joueurs de... Ils ne sont pas mauvais devant, des Greenwood, des Rowe, des Luis Enrique, des Mopé. Même Wai, c'est plutôt le genre de truc en profondeur qui peut l'intéresser. Le gars qui fait la passe. que devait être Carboni.
Et voilà, quid de Carboni. Malheureusement, s'il va nous faire défaut, puisque là, c'est fini. Hein.
Oui,
il va repartir à l'Inter de Milan, très probablement. Oui, je ne sais pas de quelle manière, mais c'est vraiment très dommageable, parce qu'on aurait pu compter sur ce garçon de qualité.
Ah, il a 19 ans, international argentin.
Faisons confiance à De Zerbi qui va articuler ça avec les joueurs présents.
Et je rappelle qu'il est prêté par l'Inter avec une option à 36 millions. Donc le mec s'est fait les croisés. Il ne reviendra pas cette année. Tu ne vas pas mettre 36 millions sur un gars qui sont des croisés.
On n'a pas les reins assez solides pour patienter justement qu'il se
remette.
Malgré son talent.
Et donc certainement il va retourner après son prêt. Hein, parce que comme ça c'est toi qui vas le payer pendant l'année. Quoi. Mais qui va retourner à l'Inter Milan. Et donc il te faudrait un joueur qui ait cette qualité de passe, de remise, de jouer un peu, pas en pointe, mais un peu derrière. Et parce que il te manque, on l'a vu encore hier, il y a des moments où le ballon il tourne, on dirait Paris Saint-Germain avec Luis Enrique, quoi. Pif, paf, pouf, pif.
Mais on voit la baballe.
Voilà, à un moment donné, on voit la baballe, il faut faire la passe en profondeur, et le joueur qui l'a fait, tu l'as pas.
La possession, c'est très bien, mais quand elle est stérile, on pourrait s'en passer.
Voilà.
Bon, en tout cas, cette journée de championnat s'est très très bien déroulée pour nous, en espérant que la suite soit tout aussi bonne. Donc, dimanche prochain déjà à Saint-Étienne, avant de recevoir Lille la semaine suivante. Enfin, nous recevons Lille, c'est bien cela ou nous les déplaçons?
On reçoit
Lille également.
On va à Saint-Étienne
et nous recevons Lille.
Et le samedi,
samedi
17h, on reçoit Lille.
Tout
et
à
après,
fait.
Il y a la Coupe de France, le 32e.
Les fameux 32e qui doivent tirer actuellement.
Qui ont peut-être déjà été tirés.
Voilà. Alors, contre qui l'OM va-t-il tomber? Contre qui Martigues, qui est qualifié au demeurant, qui s'est qualifié avant-hier, face à Valence, me semble-t-il, 2-0. Donc, le tirage au sort de la Coupe de France, peut-être actuellement. Et nous allons en savoir plus très rapidement.
Plus important pour l'OM que pour... Parce que Martigues, leur objectif principal, on va malheureusement en reparler. On en avait parlé la semaine dernière, c'est le maintien. Et ils sont un peu largués, ils sont derniers.
Oui, c'est un euphémisme.
Et la Coupe de France, ça peut te remonter le moral, mais tu ne vas pas jouer ta saison là-dessus. L'OM, ça serait une bonne chose si on pouvait...
Ça commence à dater. Hein.
Oui.
J'étais avec mon pauvre papa au Parc des Princes en 1989 quand nous avons gagné notre dernière finale Coupe de France.
Ouais.
Tu t'en rappelles, si tu es présent aussi.
Ouais.
Et, en l'occurrence, ça commence à dater. Là. Il va falloir remettre les compteurs.
Et c'était contre Monaco et avec un triplé
de Jean-Pierre Papin.
Qui aujourd'hui, à 60 balais, est entraîneur de la réserve. Voilà.
Absolument.
Donc, ça remonte à 89. Ça fait 34 ans.
Restons positifs sur la continuité de cette saison, en tout cas.
Voilà.
Nous allons, évidemment, clôturer cette émission, mais toujours en suspens. Je dirais de prochains matchs qui vont arriver très rapidement. Et nous espérons de tout cœur.
Parce que c'est vrai que tu as gagné à la maison, c'était un vrai problème, tu commençais à avoir peut-être dans la tête, c'est vrai qu'on l'avait vu contre Auxerre, les joueurs ils gambergent, tu sentais que les mecs ils avaient les pieds
qui tremblaient.
Voilà, ils avaient les pieds qui tremblaient, ils osaient pas, et tu tournais en rond, c'était stérile, tu faisais des passes en retrait pour pas perdre le ballon, mais quand tu fais des passes en retrait, tu perds pas le ballon, mais tu avances pas.
Stérile.
Voilà, tu sers en rien.
Tout à fait.
Voilà, et là, tu as gagné un match important, puisque Monaco était second, nous troisième, on les rattrape, on les double au
mathématiquement, c'est fondamental.
Et si tu arrives à gagner à Saint-Étienne, ce qui est faisable, parce que Saint-Étienne, ils sont pas très solides, ils sont en bas de tableau, tu recevras Lille le samedi suivant, tu recevras Lille en ayant la possibilité de les laisser...
Leur mettre des points dans la vue.
De leur mettre ils sont déjà à 2 points, tu peux leur en mettre 5. Si tu gagnes à Saint-Étienne, on ne sait jamais. Voilà, donc c'est important, même s'il est un peu tôt pour parler de...
Oui.
Il reste encore 19...
Ben, nous sommes au premier tiers du championnat,
voilà,
donc...
Un peu plus.
Ouais, un peu plus, enfin, oui, tout à fait.
Il restera 19 journées, puisque ouais, la 16e et 17e des matchs allés est en janvier. Et après il y a
la trêve hivernale,
17 matchs
oui.
retour. Voilà. Mmh. Donc, où on joue, on reçoit Le Havre et on va à Rennes, si je ne me trompe pas.
C'est cela.
Voilà. Et donc, ça va être compliqué.
Revoir Sampaoli, non
oui,
je
on
blague.
Va revoir Sampaoli, le pauvre Sampaoli qui doit s'arracher les cheveux. Après, il n'en a pas un, donc c'est tranquille.
Ce qui lui reste, ouais.
ouais. Parce que l'équipe de Rennes, bon là, ils ont mis 5-0.
Belle prestation, oui.
Ouais, belle prestation. Mais bon, ils marquent d'entrée, ils marquent vite. Saint-Étienne a sombré, ils ont un carton rouge.
Enfin, oui, un enchaînement qui a fait que.
Qui a fait que, maintenant, il va falloir qu'ils confirment. Et parce que, honnêtement, j'aime bien Sampaoli, j'aime bien le caractère, le bonhomme, enfin voilà. Enfin, à Rennes, il dénote un peu.
Oui.
Et puis, lui qui est un adepte de... Des hommes de couloir, d'une défense à trois,
ça part de loin.
Voilà, à Rennes, ça part de loin parce qu'il n'a pas du tout, l'équipe pour.
Enfin, il leur a apporté beaucoup de bien-être et beaucoup de satisfaction sur cette soirée-là.
Ben, je pense qu'il a dû les secouer un peu. Et n'oublions pas que Sampaoli, on l'a eu donc comme entraîneur à l'OM. C'est un disciple de Bielsa, c'est-à-dire
oui,
tu
oui.
travailles, tu répètes, et voilà, et tu débordes, tu centres, tu en fais 10, tu en fais 20, tu en fais 30.
Ah, pour répéter les gammes, il est.
Et il faut surtout pas lui dire c'est l'heure, j'ai mon gamin à aller chercher à l'école.
Parce que il manquerait plus que ça à dire.
C'est pas le genre.
Si tu veux jouer le match suivant, voilà. Il vaut mieux pas demander cela.
Voilà, il vaut mieux pas demander ça. Quoi. Mais d'un autre côté. Comme on disait tout à l'heure en début, l'opération Commando à Malemort a permis de ressouder l'équipe. Mmh. Et je pense que De Zerbi et son staff, ils ont parlé à tous les gars plusieurs fois. Ils se sont répartis le boulot. Le soir, ils devaient avoir des briefings. Qu'a dit machin, qu'a dit chose. C'est comme ça que tu fonctionnes dans les stages Commando, comme ça. C'est 3-4 jours. Ont eu de l'impact.
Il est vrai qu'en l'occurrence, il n'a pas eu la possibilité de faire un stage avec l'ensemble de sa formation, vu qu'ils sont arrivés les uns après les autres, les joueurs. Donc au moins, ça a permis de remettre un peu tout le monde ensemble.
C'est vrai que beaucoup de joueurs sont arrivés tard, commencé par Rabiot, qui est arrivé même après la fin du mercato, puisqu'il était libre, il n'avait pas de contrat. Beaucoup de joueurs sont arrivés tard. Pendant les sessions internationales, tu as 10-12 gars ou 15 qui sont en sélection, comptant les jeunes qui sont avec les U17, les U19, Sternal, Bacola et des trucs comme ça.
Nos pépites.
Ce qui fait que tu te retrouves avec un groupe de 10-12 gars, tu ne peux pas travailler. Et là, il a fait un stage de travail où tactiquement, il a dû leur faire bouffer du tableau noir. Et ça s'est vu quand même mentalement dans le match hier soir.
Oui.
Ça s'est vu que l'équipe n'a pas paniqué, que les mecs sont restés solidaires. Et moi, ce que j'entendais beaucoup en sortant, on discute, on entend parler les gens, on essaie d'évacuer le stade.
C'est les meilleurs réseaux sociaux, c'est
voilà.
ceux-là. C'est ceux qui sont proches de
voilà,
nous, des êtres humains.
En râlant contre les mecs qui vont dans l'autre sens, on entend parler. Et c'est ce que tout le monde disait, la joie de l'équipe, la solidarité, l'entraide, on n'a pas tremblé. C'est quand même extrêmement positif. Faudra le confirmer contre Lille dans 15 jours.
Continuons à partager ces sentiments.
Voilà.
Voilà. Ben écoute, nous allons donc clôturer cette émission. On vous remercie à toutes et à tous. Lies, notre camarade stagiaire auprès de nous, justement, nous a accompagnés lors de cette émission. Nous espérons le retrouver très prochainement.
Voilà.
Patrick, je te souhaite une excellente semaine.
Oui, toi aussi.
Et
à tous nos auditeurs et auditrices aussi. Et on se donne rendez-vous normalement lundi prochain.
Oui, avec un grand sourire.
Oui, en espérant qu'on aura un grand sourire.
Oui, on peut toujours l'espérer. En tout cas, merci à toutes et à tous. À très bientôt.